Donc nous sommes le 9 septembre 2012 et nous sommes à Montréal, l'Institut de pleine conscience appliquée. Et c'est notre première journée de pleine conscience de l'année 2012-2013. Comme à chaque année, nous avons un programme qui va comporter 8 journées de pleine conscience et 2 retraites. Et cette année, nous poursuivons cette belle tradition. Et le thème sous-jacent de l'année sera le Sutra du Diamant. Mais nous n'étudierons pas le Sutra du Diamant comme le Sutra du Diamant, mais avec des avec une approche morceau par morceau, l'approche de la peinture par point. Comme c'est un enseignement qui englobe et qui rejoint et qui synthétise ou qui tous les enseignements, nous allons prendre des petits bouts et à un moment donné, vous verrez comment le tout se forme. Le diamant du sutra n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre de façon didactique, c'est-à-dire avec des textes ou bien avec des enseignements ou avec des enregistrements, mais surtout par notre pratique. Alors ce que je nous inviterai à faire durant l'année, c'est de le réciter régulièrement. Les textes sont disponibles et nous pourrons les publier sur le site web pour que vous puissiez y accéder. Et lorsque vous l'aurez, vous pourrez les mettre dans votre calendrier de pratique pour pouvoir les réciter régulièrement. Et avec les journées de pleine conscience mensuelles et les retraites, des petits bouts vont apparaître et vous, à un moment donné, ça va fleurir en quelque chose qui va être une compréhension qui provient du cœur et non pas juste de la tête. Alors c'est l'approche que nous avons choisi de faire pour l'étude de ce sutra très important. Le sutra du diamant fait partie de la 3e année de formation des membres de l'Ordre de l'Inter-être. Nous avions commencé il y a 3 ans, il y a 2 ans, et l'année dernière, nous avons étudié le Satipatthana Sutra, les 4 établissements à la pleine conscience, avec les 16 respirations de l'Anapanasati. L'année précédente, nous avons étudié les 4 nobles vérités et les 8 branche du chemin octuple, et nous poursuivons cette année donc avec le Sutra du Diamant et qui inclut et qui englobe tous ces enseignements aussi. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière. Nous sommes le 9 septembre. Le 9 est un chiffre porte-bonheur. Dans notre tradition, et 2 fois 9, c'est beaucoup, beaucoup de 9, alors donc c'est très beau. C'est 9 parce que c'est une nouvelle année. Et c'est 9 aussi parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour nous, pour notre communauté. Je voudrais vous partager une expérience très, très enrichissante que j'ai vécue durant cet été. D'habitude, pendant l'été, je joue beaucoup. Cette année, j'ai fait beaucoup mieux que ça. Et j'ai pratiqué très fort. Les amis qui nous ont visités pendant l'été m'ont rencontré ici à tous les jours. 4 jours, 5 jours par semaine, je suis ici dans ce local. Nous avons pratiqué avec les 14 entraînements à la pleine conscience. Nous les avons regardés un à un, en profondeur. avec notre cœur. À chaque semaine, lorsque nous avions étudié un entraînement en profondeur, nous passons au prochain. Et nous sommes rendus au 13e entraînement à la pleine conscience. Et mercredi, qui vient dans 2 jours, nous allons compléter le cycle des 14 entraînements à la pleine conscience avec le 14e entraînement. Ça m'a donné une nouvelle compréhension beaucoup plus profonde des entraînements. Une compréhension que nous ne pouvons pas avoir lorsque nous les récitons les 14 ensemble. Parce que 14 entraînements à lire en même temps, ça fait beaucoup trop de choses pour pouvoir les approfondir. Mais un à la fois, c'était la façon de faire. Et je suis un peu gêné d'avouer que j'aurais dû y penser il y a 25 ans au lieu d'avoir attendu si longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Alors donc, si vous avez été avec nous pendant l'été pour étudier avec nous ces entraînements, je vous en remercie parce que votre présence et la présence de tous les amis qui ont pratiqué ont donné cette énergie et cette nouvelle compréhension que nous avons pu acquérir par notre étude de diligence des entraînements. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas trop tard, parce que ça m'a pris 25 ans pour m'en apercevoir. Alors, vous pouvez encore prendre 24 ans. Non, prenez pas ça. Faites-le, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. C'est un trésor. C'est un trésor que notre maître nous a donné, nous a laissé. Ce n'est pas juste moi qui le dis, parce que tous les amis qui ont étudié et appris les entraînements avec nous ont été très heureux de réaliser que si nous pouvons adopter les entraînements et les amener dans notre vie de tous les jours, il n'y a aucun conflit qui peut exister. Tous les conflits que nous voyons en nous ou autour de nous, si nous les reflétons avec les 14 entraînements, nous y verrons la voie pour nous en sortir. Et donc notre maître a vraiment été très habile pour avoir concentré tous les entraînements du Bouddha dans ces simples 14 entraînements. Et lorsque nous pratiquons les 14 entraînements, nous voyons que nous pratiquons tous les enseignements du Bouddha. On retrouve les 4 nobles vérités, on retrouve les 8 branches du chemin octuple, on retrouve les 4 établissements de la pleine conscience, on retrouve le sutra du diamant aussi. Tous les enseignements du Bouddha sont distillés et se retrouvent dans les 14 entraînements. Et les 14 entraînements à la pleine conscience, ce sont la base de notre pratique. Et nous nous sommes entendus sur une définition de la Sangha. La Sangha est un des 3 joyaux qui comprend le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et les 3 joyaux intersont. Une Sangha contient en elle l'enseignement du Bouddha. Et parce qu'elle comprend, parce qu'elle contient, parce qu'elle pratique les enseignements du Bouddha, elle manifeste la présence du Bouddha en elle. Et donc une Sangha, c'est une communauté qui pratique selon les enseignements du Bouddha afin de manifester la compréhension et la compassion dans ce monde pour chacun de ses membres et pour le monde. Et une Sangha, dans notre tradition, pratique le bouddhisme selon l'enseignement de notre maître, c'est-à-dire selon les 14 entraînements à la pleine conscience. Et lorsque nous pratiquons avec les 14 entraînements à la pleine conscience, nous sommes une belle sangha. Nous sommes une sangha authentique et il n'y a rien qui peut arriver à notre sangha parce que notre sangha va être bien protégée et bien nourrie. Et elle ne peut faire autrement que de s'épanouir et de grandir pour le bénéfice de chacun des membres et de toute la société. Et la société a besoin de nous. La ville de Montréal a besoin de nous. La province de Québec a besoin de nous. Le Canada a besoin de nous. Et le monde a besoin de nous. Donc c'est le résultat de notre pratique ensemble pendant l'été et que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de commencer avec l'enseignement sur les sept facteurs d'éveil. J'aurais dû lire le texte que nous avions lu ce matin ensemble. Mais je ne l'ai pas lu. Merci de nous, de me l'avoir fait entendre. Donc, les sept facteurs d'éveil. C'est quoi l'éveil pour vous? C'est ça qui est ça. C'est si simple. Là, c'est la parole de notre enseignante résidente. Et je pense que ça résume exactement la notion d'éveil selon la définition du Bouddha. Éveil en sanskrit, c'est Bouddha. Et Bouddha veut dire éveillé. Et nous suivons l'exemple et l'enseignement de notre maître, le Bouddha, pour pouvoir parvenir à l'état où il est parvenu. Un état où il s'est exclamé lorsqu'il a eu. Comme c'est drôle, c'est si simple, et pourtant... tous les humains, tous les êtres ne le réalisent pas et reviennent indéfiniment dans le cycle de la naissance et de la mort et ne parviennent pas à s'en échapper. Et pourtant, c'est si simple. Une autre définition qui peut être aussi donc l'éveil de... en anglais, il y a le terme « aha ». The aha moment. Alors, il nous en arrive souvent dans notre vie, dans notre journée. Et ce sont des petits éveils qui nous arrivent de temps en temps. Cette lumière qui s'allume, clic, et puis à chaque fois, ça fait du bien, téléphone. Eureka, right on. Clic. Et lorsque c'est le grand déclic, c'est le grand éveil, et c'est ce qui nous permet de pouvoir transcender toutes les l'anxiété et douleur. Alors, je pourrais peut-être aussi nous proposer comme définition l'atteinte de l'autre rive. Arriver sur la rive de la non-souffrance, arriver à la grande compréhension par opposition avec notre ignorance. Nous commençons à reconnaître cet état dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la souffrance parce que nous ne comprenons pas. Et si nous pouvons comprendre les sources et les causes et les raisons de la souffrance, nous pouvons travailler pour les enlever. Et la non-souffrance est là, aussitôt qu'on enlève les sources ou les causes de non-souffrance. Donc l'éveil serait... cette compréhension qui nous permet de pouvoir comprendre les racines, les sources de nos souffrances, afin de ne plus souffrir. Ça va? Premier facteur d'éveil, quelle surprise. Pleine conscience. Et pleine conscience, c'est notre marque de commerce. En fait, le terme mindfulness a été inventé par Thay Thich Nhất Hạnh. Et la première fois, il a été prononcé dans le congrès des religions à Chicago dans les années 60. Je crois, je pense. Et ce mot est devenu un mot très populaire. Et je me souviens, lorsqu'on a commencé à enseigner cette pratique, beaucoup d'érudits et de linguistes sont venus pour nous. Mais ce mot n'existe pas. Mindfulness, ça n'existe pas. Vous devriez utiliser le mot awareness ou bien attention ou bien tout ça. De la façon usuelle de mon maître, il ne répond juste pas et il ne fait que sourire. Parce qu'il sait que lorsque on vient avec une idée, et surtout lorsqu'on est très sûr de son idée, on ne cherche qu'à argumenter pour pouvoir gagner notre point. Et donc, c'est complètement inutile de parler avec du monde qui ont une idée trop arrêtée ou bien qui sont trop sûrs de leur opinion. Et Thay, parce qu'il comprend, il sait que ce n'est pas utile de parler à ces personnes-là. Il pratique le silence foudroyant. Le thundering silence. Et des fois, c'est beaucoup plus éloquent qu'un procès. Et 30 ans après, 40 ans après, on s'aperçoit que c'est ça. Et à chaque fois que j'ai à enseigner la pleine conscience, je commence toujours par la définition de la pleine conscience. Et à chaque fois, je me demande, bon, c'est quoi la pleine conscience? Et à chaque fois, je pense que je donne une définition un peu différente. Parce que ça dépend vraiment de la place où je suis et cette journée-là ou bien à ce moment-là. Il y a un ami qui vient ici enseigner des fois, il s'appelle Robert Béliveau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est bien connu à Montréal et il enseigne beaucoup la pleine conscience et il en parle aussi des fois à la télévision. Et pour lui, pleine conscience, c'est un peu trop ambitieux, c'est un peu trop difficile. Et il dit qu'on devrait juste se contenter de pratiquer un peu pour pouvoir être un peu plus conscient. Et ça me convient. On peut être un peu conscient à chaque fois. Avec le un peu à chaque fois, on peut peut-être éventuellement parvenir à la pleine conscience. Mais d'ici là, quand même avoir une idée de ce que c'est. Comme cet objectif que nous nous donnons, ça peut être très loin, ça peut être éloigné, puis qu'on n'atteindra jamais, mais quand même l'avoir pour pouvoir garder le nord, garder le cap. Donc la pleine conscience provient du mot smrti. Smrti, S-I-S-M-I-R-T-I. Pardon? Plus fort. S-M-R-I-T-I, Smrti. Quand Thay nous l'a enseigné ici, dans les années 80, il l'a enseigné en nous montrant les plaques d'immatriculation du Québec. Alors, au Québec, nous sommes très chanceux d'avoir cette plaque qui dit « Je me souviens ». Et « Je me souviens », c'est la pleine conscience. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de où je suis. Je me souviens de ce que je suis en train de faire. Et je me souviens de pourquoi je le fais. Donc, qui suis-je? Où suis-je? Que suis-je en train de faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Et dernièrement, j'ai ajouté quelque chose à cette définition. Es-tu sûr? Alors, je ne sais pas si ça vous convient. On peut... dans le livre qu'on est en train d'utiliser pour l'étude des sept facteurs d'éveil, le livre c'est Les enseignements, le cœur des enseignements du Bouddha. Un thème parle aussi de la pleine conscience, c'est une question de relation. La pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. La pleine conscience ne peut pas exister par elle-même. Et donc, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Alors, lorsque nous pratiquons la pleine conscience, c'est la pleine conscience de la respiration, c'est la pleine conscience de la marche méditative, de la marche de notre corps, c'est la pleine conscience de nos idées, de nos sensations, de nos perceptions et des cinq skandhas. La pleine conscience, c'est aussi, c'était notre sujet d'étude l'année dernière avec les quatre établissements. Les quatre établissements de la pleine conscience, la pleine conscience du corps, la pleine conscience des sensations, la pleine conscience des formations mentales et la pleine conscience de la conscience. Pour illustrer cette nature universelle et pervasive de la pleine conscience, où la pleine conscience qui est cette capacité que nous pouvons développer et qui peut avoir pour objet tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous définit et tout ce que nous sommes. Et qu'on peut illustrer, que le Bouddha a illustré comme étant les cinq skandhas. Alors, lorsque nous pratiquons les quatre établissements de la pleine conscience, nous pratiquons aussi la pleine conscience des cinq skandhas. Nous pratiquons le corps, les sensations, les perceptions, les objets de l'esprit et l'esprit. Et donc, la pleine conscience... Cette capacité innée que nous avons à pouvoir être dans l'instant, être en contact avec tout ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Notre capacité à pouvoir être présent dans l'instant, en contact avec tout ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Alors, retenez juste cette définition pour la journée et pour le temps qu'on fasse les sept facteurs d'éveil. Et après cela, vous pourrez la lâcher puis revenir à la pratique d'un peu de conscience à un moment donné. Mais la pleine conscience, c'est cela la définition. Ça va? Très très important. Je voudrais parler de ce premier facteur d'éveil. Et dans ce cheminement des sept facteurs d'éveil, l'éveil ne peut s'obtenir, ou bien on ne peut même pas s'engager dans cette voie, dans cette hiérarchie, ou cette, si on ne le fait pas la première. Et c'est pour ça qu'on voit l'habileté de notre maître à insister et à enseigner le bouddhisme par la pleine conscience. Parce que c'est avec ça que ça commence. Parce que s'il n'y a pas de pleine conscience, il n'y a plus rien qui peut marcher. Il n'y a rien qui peut marcher. On peut étudier tous les grands sutras, on peut, et puis on en a plein. Dans toutes les langues qu'on veut. Mais si nous n'avons pas la pratique de la pleine conscience, si nous n'avons pas cette capacité à l'intérieur de nous, il n'y a aucun de ces sutras qui peut faire quoi que ce soit pour nous. Et je peux aussi vous dire une autre chose. C'est que lorsqu'on pratique la pleine conscience et qu'on a un peu de cette conscience, c'est très facile de comprendre les autres enseignements et les sutras du Bouddha. Des fois, j'ai des conversations avec ma mère. Et ma mère, c'est une fervente, une bouddhiste fervente. Elle récite beaucoup les sutras et elle pratique le bouddhisme surtout par la dévotion. Et elle est maintenant une moniale et je peux voir les mérites de cette pratique aussi. Mais je ne suis pas rentré dans la pratique par dans l'étude du bouddhisme par cette voie. Je suis rentré par la voie de la pleine conscience. Alors donc je connais beaucoup moins les sutras qu'elle, je connais beaucoup moins les récitations qu'elle, mais on peut se parler, on se comprend très vite. Parce que aussitôt qu'elle me parle dans l'enseignement, ou bien d'un sutra, je le reconnais tout de suite. C'est comme si, juste par la pleine conscience, ou bien cette capacité de conscience que j'ai pu développer par la pratique qui est enseignée par notre maître, on peut comprendre l'essence du bouddhisme. Et parce qu'on comprend l'essence, c'est très facile de comprendre aussi tous les autres enseignements qui ne sont que des moyens ou des portes qui amènent vers la même place. Dans le un, dans le tout dans le un, pratiquer cette pratique de pleine conscience peut ouvrir à toutes les portes possibles. Et c'est pour ça que je nous ai invités aujourd'hui de pratiquer la pleine conscience pour pouvoir découvrir et reconnaître et comprendre l'essence du sutra du diamant sans étudier le sutra du diamant, mais seulement en le récitant. On récite cela régulièrement et on pratique la pleine conscience et tout d'un coup ça va se révéler, ça va se révéler, ça va se manifester, ou bien manifester, ce n'est pas le mot, c'est comme une, c'est ça, à un moment donné ça fait. Alors juste le réciter, pratiquer la pleine conscience va le faire éclater. Oups, le temps passe trop vite, l'instant présent est trop court. Pleine conscience. C'est qui pratique la méditation? Est-ce que vous pratiquez la méditation chez vous? Vous? Diane, à chaque jour? Qui pratique régulièrement chez soi? So happy. Mercredi, de, non, mardi dernier, j'ai commencé un cours de, une session de quatre cours, un cours de quatre sessions pour les soins de santé en pleine conscience. Et j'avais invité les participants au cours à essayer de pratiquer 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, comme en méditation. Et si vous pouvez le faire, si nous pouvons avoir une pratique journalière, ça peut aider, oui, ça aide beaucoup à se stabiliser, à se... Et lorsque nous allons nous asseoir en méditation, nous allons nous apercevoir de beaucoup de choses. Et ce que je peux nous suggérer ici, ceux qui pratiquent la méditation, peut-être de pratiquer avec un exercice. Lorsque nous sommes assis et que nous pouvons... Ok, je vais revenir un peu. Lorsque vous voudrez pratiquer la méditation assise, il y aura des jours où vous serez très enthousiaste pour le faire. Et il y aura des jours où ça sera un peu plus dur à faire. C'est de pouvoir observer cette énergie. C'est un exercice qui est qui peut être très révélateur. Et je vais y retourner. Qui est révélateur sur les obstacles à la pleine conscience. Les obstacles à la pratique de la pleine conscience que nous avons étudiés au début de l'année dernière. Lorsque nous... Le premier obstacle, c'est le désir. Le désir et l'attachement. Et avec le désir et l'attachement, il y a aussi l'aversion et la répulsion. Et nous sommes toujours entre ces deux places-là. Et c'est de pouvoir l'identifier. Alors, vous souvenez-vous de la définition de la pleine conscience? Être présent en contact avec ce qui est en train de se passer. Est-ce que je suis en train d'aimer ou est-ce que je suis en train de détester? Est-ce que je suis en train de pouvoir grasp? What's the word? Accrocher. Saisir ou est-ce que je suis en train d'essayer de repousser. Lorsque nous avons appris les obstacles, les cinq obstacles, je vous avais mentionné que c'était une mesure de notre degré de pleine conscience. Pouvoir être là afin de pouvoir identifier ces obstacles et les mesurer. Les mesurer comme une mesure de notre pratique. Et plus ils sont forts, et plus ils sont là, et plus nous savons que nous avons un grand chemin à faire. Alors donc, la pleine conscience de ces obstacles peut se pratiquer pendant cet exercice très simple que nous nous donnons à chaque jour, 15 minutes de méditation. Nous sommes assis en méditation, ça va bien. Notre voisin d'en bas claque la porte. Il y a un son qui s'est produit. Et si nous sommes assis en méditation, nous pourrons peut-être observer le phénomène de dependent origination, les 12 liens de causalité. Il y a un son. Et ce son, ça prend quelque chose, ça prend nos oreilles. Et ça prend aussi la conscience auditive pour pouvoir exister. Le son ne serait pas un son et n'existerait pas s'il n'y avait pas nos oreilles. Et s'il n'y avait pas cette conscience auditive, ces deux choses doivent coexister pour que le son puisse être. Et là, c'est un son. Mais là, le son, ça se transforme et ça devient une sensation qui peut être agréable, déplaisante ou neutre. Et quand nous sommes assis en méditation, un claquement de porte en bas, c'est déplaisant. Et lorsque c'est déplaisant, on vient juste d'entrer dans cette chose-là. J'aime, je n'aime pas, je veux saisir, je veux le repousser. On note le son. On note ce que ça fait en nous. On note notre tendance à pouvoir être d'un côté et de l'autre. Et ça ne s'arrête pas là. Je n'aime pas. Et puis là, on commence à dire nos prières en français. Il fait encore ça, il est toujours comme ça, quand est-ce qu'il va arrêter de m'emmerder, etc. Puis là, on part. Et c'est de pouvoir observer ce phénomène. Pour voir que un son, ce n'est qu'un son. Mais un son, lorsque ça rentre en nous, ça se transforme et ça se manifeste en sensations. Des sensations qui deviennent des idées qui deviennent un comportement et qui nous définissent comme ce que nous sommes. Parce que nous réagissons toujours de la même façon, au même stimuli. Et si nous pouvons le reconnaître, nous sommes sur la voie de l'émancipation et de la transformation. Et la différence entre un pratiquant et un non-pratiquant, c'est celui qui peut identifier exactement ce qui est en train de se passer à chaque instant. Il y a un son. Il y a une sensation. Il y a une idée. Et les identifier une à une. Les regarder et regarder comment est-ce qu'elles se manifestent dans notre corps. Vous souvenez-vous, l'année dernière, le premier établissement à la pleine conscience, le corps dans le corps. Rentrer dans le corps pour voir comment est-ce qu'il se porte. Et lorsqu'on rentre dans le corps pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il se porte, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de regarder les sensations. Et si nous avons pratiqué les sensations, nous savons que tout ce qui se passe en nous et autour de nous se manifeste et non se manifeste, mais que nous pouvons être en contact avec en travers ou par les émotions, par les sensations. Ce ne sont que par les sensations que nous pouvons reconnaître, ou bien que nous pouvons avoir un signal ou une idée de ce qui est en train de se passer. Et de la même façon, lorsque ce son arrive, il y a des sensations. Identifier ces sensations. Et lorsqu'elles sont plaisantes, reconnaître comment elles se manifestent. Lorsqu'elles sont déplaisantes, elles créent des tensions. Reconnaître ces tensions, les embrasser, les relâcher, les calmer. Et lorsque nous pouvons agir de cette façon-là, nous venons de nous découvrir le aha, le premier petit aha. Ah, il y a un processus. Il y a un processus qui se passe et qui se répète. Et c'est le même processus qui est applicable aussi pour tout ce qui est en train de se passer. Et c'est le même processus que nous avons rehearsé. Que nous avons répéter, pratiquer notre vie durant. Et c'est pour ça qu'on est si bon. C'est devenu automatique aussitôt que quelque chose arrive. parce qu'on s'est trop habitué, parce qu'on s'est trop pratiqué. Et maintenant, la pratique, c'est la pratique de... C'est de défaire pour pouvoir comprendre ce processus qui est en train de se passer. Et c'est par la pleine conscience. Et c'est seulement avec la pleine conscience que nous pouvons le faire. Alors, la pratique de la pleine conscience, ça peut se résumer à... Et c'est une pratique des grands maîtres Theravada. Notez moment par moment, notez à chaque moment ce qui est en train de se passer. Juste notez un son, une sensation, une idée, une réaction, une aversion. Les identifier, les... Et Thay aussi nous a enseigné cela. Identifier. Reconnaître. Ceci est une graine de sésame. Ceci est une pousse de quelque chose. L'identifier. Une autre pratique de pleine conscience, ou bien une autre façon de regarder, ou bien d'apporter cette pratique dans notre vie de tous les jours. Nous nous levons le matin, nous sommes de bonne humeur, parce que nous avons pratiqué le gâta du réveil. Et le gâta du réveil, c'est une pratique que nous faisons tout le monde ici ensemble. Et je ne sais pas si vous voudriez l'adopter. Je me lève en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. Et lorsque nous nous levons le matin en souriant, lorsque nous faisons le vœu de vivre dans la pleine conscience et de regarder les êtres avec les yeux de la compassion, ça donne une teinte à notre journée. Et on est bien. On fait nos premiers pas dans la pleine conscience et on récite un autre gâta. C'est un miracle de que pouvoir marcher sur cette terre. Et à chaque pas, le dharma kaya se révèle. À chaque pas, il y a une fleur qui s'éclot en bas de mes pieds. À chaque pas, un vent léger, rafraîchissant, se lève. Et nous marchons comme si nous flottions. Nous allons en méditation, ça va bien. Nous prenons un bon petit déjeuner dans la pleine conscience et nous apprécions chaque bouchée de pain que nous prenons. Nous sortons et nous trébuchons sur une bicyclette. Et on tombe dans une flaque d'eau. Et on est tout sale. Et on est un peu en retard parce qu'on a pris trop de temps avec notre petit déjeuner que nous aimions tant. Mais là, on ne peut plus aller à la réunion qui nous attend parce que on n'est pas présentable. Et là, la Bible nous revient. Alors on rentre, on se dépêche, on s'accroche, on brise nos boutons, on change encore de chemise. Moi, ça m'arrive jamais, j'imagine seulement, mais ce n'est pas moi que je suis en train de décrire. Puis toute ressemblance à des personnes connues n'est que... Et on arrive en retard à la réunion, on rentre, on est tout gêné, notre boss est là, il nous regarde de travers. Et la réunion finit par finir, de toute façon, parce que tout finit par finir. Et là, on sort de la réunion, on est tout mal. Nos secrétaires arrivent avec des messages que nous ne voulons pas recevoir. Et tout d'un coup, notre langage n'est plus aussi aimant qu'on voudrait qu'il soit. Ce n'est pas la faute de la secrétaire. Ce n'est pas la faute de la personne qui a laissé le message. En fait, ce n'est la faute de personne. C'est juste que cet accident, cette bicyclette qui a eu le malheur de se placer sur notre chemin, a teinté notre journée. Et tout ce que nous allons continuer de voir pendant la journée sera affecté par cet événement. Et c'était l'une des leçons que j'avais données à nos pratiquants de soins de santé en pleine conscience. Êtes-vous sûr? Le diagnostic que vous venez de poser, en êtes-vous sûr? Et puis, pour pouvoir être un peu plus sûr, ou bien pour pouvoir reconnaître la validité de votre diagnostic, c'est de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes vraiment là? Quelles sont les lunettes que vous êtes en train de porter? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre journée avant? Pour pouvoir peut-être avoir ce déclic. Ah, c'est vrai, je suis fatigué. Donc les interventions que je vais faire vont porter la teinte de ma fatigue. Et parce que je suis fatigué, j'aurai tendance à vouloir faire plus vite. Et parce que je fais plus vite, j'aurai ignoré des choses. Donc juste être conscient de ces conditions dans lesquelles nous sommes. Et l'exemple de la bicyclette, c'est un exemple pour nous faire réaliser que cette teinte que nous portons, ces lunettes que nous portons, n'est pas limitée à cet incident de la bicyclette, mais que nous portons aussi les blessures et les effets de notre karma avec lequel nous sommes nés. Nous portons un bagage. Nous avons un grand sac que nous traînons depuis vie après vie. Pardon? C'est plus que 12 liens. C'est plus que 12 liens. Oui, c'est un paquet. Puis lorsqu'on l'ouvre, il est gluant, il est collant, il est pur. Mais vous êtes-vous imaginé le nombre de bicyclettes que vous portez en vous? Alors donc la pleine conscience, c'est la pleine conscience de tout ce qui est en train de se passer et aussi des filtres que nous portons, des préjugés que nous avons, et des préconceptions que nous avons, et de tout ce que nous portons en nous, et qui déforme complètement tout ce qui est en contact ou bien avec. Et je viens de passer un peu trop vite avec le deuxième facteur, qui est l'investigation discriminative des dharmas. Nous armons de cet outil de la pleine conscience. Nous posons la question et nous identifions ce qui se manifeste. Et lorsque nous le faisons, il y a des indices. Et lorsque nous poursuivons les indices afin de voir retourner à la source, ça s'appelle l'investigation discriminative. Comprendre l'origine de ces choses en y allant, en les regardant, en regardant comment les choses se manifestent et qu'est-ce qui conditionne leur coming to be. Ok, apparition. Et lorsque nous nous avons écouté la lecture du sutra, il y a les 3-4 étapes que le Bouddha mentionne, et c'est cette habitude que nous voulons nous développer pour pouvoir identifier et pratiquer l'investigation discriminative. Lorsque la pleine conscience n'est pas, le pratiquant sait qu'il n'est pas dans la pleine conscience. Mais ça, je trouve ça un peu drôle, parce que s'il n'est pas dans la pleine conscience, comment est-ce qu'il peut savoir qu'il n'est pas dans la pleine conscience? Okay. Lorsque la pleine conscience apparaît, il reconnaît que la pleine conscience apparaît. Lorsque elle grandit, elle est complètement développée. Et yes, c'est ça qui est le... Alors, il y a ces étapes-là que nous pouvons aussi regarder, observer avec l'investigation discriminative. Donc, avec l'investigation discriminante, de pouvoir reconnaître le phénomène ou bien le processus des 12 liens de causalité. Quand une sensation... L'autre définition ou un autre aspect de la pleine conscience, comment notre esprit passe d'une branche à l'autre, le singe. En pratiquant le singe, reconnaître aussi les obstacles qui accompagnent le singe. Dans la pratique de la méditation assise que nous proposons de faire, lorsque je vous avais parlé des obstacles à la pleine conscience, à la pratique qui nous guette, il y a le troisième facteur qui rentre dans le facteur de l'énergie. Et l'énergie. Il y a cinq formes d'énergie, ou il y a cinq énergies qui nous permettent de pouvoir et qui nous aident avec la pratique de la pleine conscience. Nous avons parlé de la foi. De la foi que nous devons avoir pour pouvoir nous soutenir dans la pratique. Alors, les matins où nous n'avons pas trop envie d'y aller, c'est peut-être un manque d'énergie. Et le manque d'énergie peut être dû à notre confiance ou ou la foi. Pourquoi les mots me manquent? Les cinq énergies, première énergie, la foi. La foi que cette pratique, la pratique de la pleine conscience, est ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous aider à réaliser ce que nous recherchons. Que nous pouvons avoir la capacité de pouvoir le réaliser. Et que cette pratique est une pratique qui peut nous apporter ce que nous recherchons. Et lorsque nous avons cette foi, ça prend aussi un effort pour pouvoir nous garder dans cette pratique, la pratique de la pleine conscience. Et une fois ou bien lorsque la foi est assez forte, la diligence et la pratique régulière est plus facile. Et lorsque la pratique est plus facile, la pleine conscience grandit. Et donc ces trois aspects se nourrissent l'un l'autre. Lorsque nous sommes un peu plus conscients, lorsque nous sommes un peu plus présents, les choses sont plus calmes et plus plaisantes, et ça nous renforce dans notre croyance et dans la foi que nous avons en notre capacité et dans la pratique. Et les cinq énergies, finalement, les deux prochains rejoignent concentration et équanimité. Et les sept facteurs d'éveil rencontrent ou bien sont, ne sont pas différents des cinq énergies. L'énergie qui est le troisième contient aussi les deux derniers facteurs d'éveil. Le facteur d'éveil numéro 1 et le 6 et le 7 font aussi partie des trois enseignements que nous suivons. La pleine conscience, la concentration et la compréhension. Alors lorsque nous pratiquons la pleine conscience, juste parce que nous pratiquons la pleine conscience, cette capacité de pouvoir être présent avec ce qui est, nous permet de pouvoir pratiquer le deuxième et de reconnaître le processus de l'apparition aussi de tout ce qui est. De l'apparition et par le même fait de la dissolution aussi. Le troisième qui est l'énergie est ce facteur-là qui alimente le premier et le premier qui permet de pouvoir faire le deuxième encore mieux que ce que nous pouvons faire lorsque nous manquons de concentration ou de pleine conscience. Et le quatrième qui est la joie est à mon avis le facteur le plus important pour notre pratique, la joie que nous ressentons lorsque nous découvrons quelque chose, lorsque nous sommes assis en méditation et tout d'un coup que nous comprenons qu'un son, ce n'est qu'un son, que nous sommes parvenus à nous distancer de cette sensation, de ce sentiment, de ces idées, et que nous sommes parvenus à pouvoir le relâcher, to relax and let go. Ok, l'exemple du son. Pouvoir ne pas rester pris avec, mais pouvoir le relâcher, relâcher cette tension. Est-ce que c'est un bon mot? Calmer la tension, relâcher la tension et la laisser aller. Parce que aussitôt que nous pouvons la calmer, la relaxer, elle perd de ses moyens et elle va juste s'en aller. C'est seulement lorsque nous restons avec, lorsque nous la grippons, qu'elle peut continuer à faire son effet. Aussitôt qu'on l'a reconnue, relaxée, relâchée, elle s'en va. Une image que j'ai lue et que j'aime beaucoup de cette chose-là, c'est que on a un morceau de braise, un tison, un charbon brûlant. Et qui est dans nos mains, si on referme, ça fait encore beaucoup, beaucoup plus mal que juste. Et c'est ça la pratique, c'est de relâcher, laisser aller. Et Thay utilise l'image de throw away. Et puis aussitôt qu'on est parvenu à faire cet exercice-là une fois, c'est ce « aha, yes ». Et c'est cette joie-là qui est là, cette joie qui est « je peux le faire ». Et c'est la joie qui alimente l'énergie, et c'est l'énergie qui alimente la pleine conscience et l'investigation discriminative. Alors pour moi, la joie, c'est vraiment ce premier succès de notre pratique, et qui est aussi le fuel et l'alimentation et le moteur de toute toute cette chose-là qui arrive. Et lorsque la joie est là, ce n'est pas un hasard qu'elle soit au quatrième, parce que le quatrième, c'est le centre des sept. Parce que sans le quatrième, les trois premiers ne sont pas possibles. Et j'avais souvent mentionné dans notre cercle, dans nos soirées et dans toutes nos activités de pratique. Et la pratique, ça se résume à nourrir notre joie. Et c'est ça que nous nous sommes rappelés au début de l'été. Cette pratique, c'est une pratique de joie. Et si nous n'avons pas de joie dans notre pratique, nous ne sommes pas dans la pratique de Thich Nhat Hanh. Parce que la pratique de Thich Nhat Hanh, c'est une pratique de joie. Et notre pratique, toute notre pratique, revient à cette chose-là, nourrir notre joie dans nos activités de chaque jour. Parce que, avec la joie, c'est très facile de pouvoir pratiquer la pleine conscience. Et lorsque nous pratiquons la pleine conscience, cette pleine conscience-là va grandir. Et lorsqu'elle grandit, l'investigation discriminative va être encore plus forte. Et l'énergie va encore grandir. Et nous pourrons voir de mieux en mieux pour pouvoir arriver à cette compréhension qui est l'éveil. Donc avec la joie, c'est ce « aha, yes !» Et la joie est le calme qui suit. Le quatrième, c'est aussi une joie, mais c'est une joie qui est beaucoup plus calme et tranquille. Et c'est la joie qui reste après que la joie est partie. Alors lorsqu'il y a la joie, il y a cet excitement, il y a « ah, yes !» Mais lorsque cette chose-là se calme, c'est beaucoup plus profond et c'est peut-être ça l'état de bonheur qu'on parle. C'est une joie calme, paisible, profonde. Et lorsque nous avons cette joie calme, profonde, nous atteignons cet état et le mot concentration n'est pas un bon mot. Le terme sanskrit, c'est dhyana. Non, ça n'a rien à voir avec la chanson de Polanka. Non, je l'aime, alors ça m'apporte de la joie, c'est parfait. Mais j'ai changé un peu les paroles. En tout cas, je vous en parlerai un de ces jours. Riez pas. Dhyana, D-H-Y-A-N-A, Dhyana. Zen, méditation. Et c'est ça le sixième facteur. Et le sixième facteur est très différent de concentration. Concentration, dans le sens de où je vous l'avais dit quand j'étais plus jeune et que je ne savais rien encore. Où je nous comparais avec l'attention focussée comme un rayon de laser qui fait éclater l'objet d'observation. C'est une vue un peu puérile et enfantine de la concentration. Et c'est différent de la concentration bouddhiste ou bien du dhyana ou du zen. Lorsque nous sommes concentrés de cette façon-là sur un point, on perd la conscience de tout ce qu'il y a autour. Donc ce n'est plus la pleine conscience. Ce n'est qu'une concentration banale. Mais le dhyana, l'esprit zen, la méditation, je m'en reviens à la définition. Être présent avec tout ce qui est en train de se passer dans l'instant. Tout est OUT, en nous, à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors si on est juste focusé sur un point, on n'est plus là-dedans. Et on n'est plus. La différence entre cet état méditatif. Et il y a quatre états, les quatre jhanas, où nous pouvons être en harmonie puis en communion avec tout ce qui est, pleinement conscient avec tout ce qui est en train de se passer, sans se laisser distraire. Mais rester quand même en focus avec l'objet de notre méditation et notre attention, sans perdre contact avec tout ce qui est en train de se passer. Et c'est ça la concentration, selon l'enseignement du Bouddha. C'est ça la méditation, et c'est ça le dhyana, et c'est ça le sixième facteur d'éveil. Et lorsqu'on est là, avec cette joie calme, paisible, envahissante, pervasive et partout, et qu'on est dans cet état de calme et qu'on est au courant de tout ce qui est en train de se passer, sans se laisser attirer ni repousser, nous atteignons cet état d'équanimité. Et l'équanimité, c'est de pouvoir regarder, être en contact avec tout ce qui est, de voir la souffrance telle qu'elle est, de voir qu'il y a de la souffrance, et accepter que c'est la souffrance. Être en contact avec une personne qui est souffrante, être en contact avec une personne qui est en colère, et se dire, elle est en colère, elle est souffrante, and it's okay. It is okay for you to suffer. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Suffering is okay. C'est très différent de vouloir éliminer la souffrance. Le son est là. C'est okay. Parce qu'on n'a pas le choix. Le son est là, il est là. It is okay for the sound to be, because it's the only way. Il n'y a aucun autre moyen. Elle est là. Elle est là. Vous souvenez-vous du... Comment ça s'appelle? Donc c'est l'acceptation. Vous voyez, lorsqu'on utilise ce mot acceptation inconditionnelle, ça ne décrit pas l'équanimité, parce qu'il y a cette... C'est comme un compromis, ok, on fait. Mais c'est juste cette réalisation que la souffrance est, puis elle est. Et parce qu'elle est, elle est. Et savoir que il n'y a rien que nous pouvons y faire. Sauf être là, équanime. Regarder, être en contact. Et pratiquer la radiation, agir comme un soleil et irradier notre amour. Et c'est la seule chose qui peut changer tout ce qu'il y a autour de nous. La seule façon de pouvoir transformer quelque chose, c'est de l'aimer. Et si nous pouvons approcher une personne en colère, sans que sa colère nous affecte, sans qu'on en fasse notre colère, sans qu'on réagisse à sa colère, mais juste être là et accepter que la colère est colère, et que la colère est, et qu'il n'y a aucune autre chose que d'accepter que la colère est, parce qu'elle est là, qu'on l'accepte ou non, elle est là. Et c'est ok qu'elle soit là, parce qu'elle est déjà là, puis elle est là. Et juste pratiquer le retour en soi, regarder cette chose-là avec des yeux équanimes, sans se laisser affecter, sans être affecté, et continuer notre pratique de la marche méditative, de la respiration consciente, du sourire, et radier l'amour. Et j'ai trouvé une nouvelle signification à mon nom. True radiance. Si je pouvais radier cet amour, je mériterais mon nom. Et d'ici là, je vais pratiquer pour pouvoir avoir beaucoup d'amour en moi. Assez d'amour en moi pour accepter tout ce qu'il y a autour de moi, comme c'est. Parce que c'est la seule façon. Parce que c'est la façon dont les choses sont.
C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et radier mon amour pour transformer ce qui est ça. Et pour moi, c'est cela l'enseignement du Bouddha. La compréhension. La compréhension qui apporte un amour, une équanimité, un amour inconditionnel pour tout ce qui est. Alors, merci beaucoup.